Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 177, et aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle générative et de design graphique avec Manon Verbeek.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Bonjour les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que je vous trouve en grande forme. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Ambition au féminin. L'été bat son plein, on a envie de jouer dehors, mais on continue nos rendez-vous hebdomadaires. On avait l'idée de prendre une pause pour le podcast, mais on dirait qu'à chaque fois, on a une nouvelle conversation intéressante avec un nouvel invité ou avec une nouvelle réflexion à partager. Puis on continue jusqu'à ce qu'on ait besoin de prendre une pause. Mais pour le moment, on est ensemble et je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, conversation hyper intéressante sur un sujet que je connais pas beaucoup et pour lequel j'ai eu la chance d'en apprendre davantage durant cette conversation. J'ai reçu Manon Verbeek, qui est designer indépendante et créatrice de contenu depuis 2013, et elle a une expertise très particulière à utiliser l'intelligence artificielle, plus spécifiquement Midjourney, pour aider ses clients dans leur univers visuel. Donc, elle aide les solopreneurs, plus particulièrement, à déployer leur identité visuelle avec ses prestations et ses formations. Et elle travaille avec des outils comme Canva, les IA génératives, et de son propre aveu, elle est un peu nerd et pas mal amoureuse d'automation, comme moi, by the way. Je pense qu'on se rejoint pour notre amour de Notion. Et elle est aussi maman de deux. Avec elle, le design devient simple et bénéfique pour les affaires et son objectif, c'est toujours de rendre mémorables les solopreneurs d'exception grâce à des identités et des visuels uniques. On a une belle conversation où on va toucher autant à notre réflexion sur la création, sur l'art et les enjeux autour de l'IA générative, mais aussi les opportunités qui existent pour des solopreneurs, pour des personnes qui n'ont pas nécessairement des énormes budgets de publicité, puis comment adapter ou utiliser justement les outputs qu'on peut créer avec l'intelligence artificielle pour nos réseaux sociaux, pour notre visibilité web et pour aussi le faire dans une conscience d'inclusivité, de féminisme et ouvrir des nouvelles possibilités de représentation grâce à ces outils-là. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute! Salut Manon! Bienvenue sur l'Ambition au féminin! Comment vas-tu aujourd'hui?
Salut, je vais bien et toi?
Je vais super bien! Aujourd'hui, on célèbre, juste après l'épisode, je m'en vais à la garderie de ma fille parce qu'elle commence l'école en septembre puis on lui fait une petite fête aujourd'hui, donc ça va être une belle petite matinée.
C'est hyper chou!
Je sais! Elle a mis sa belle robe, puis là, elle est prête. Fait que je suis comme de bonne humeur aujourd'hui, puis je suis contente de te recevoir sur le podcast. Mm-hmm. Donc, je fais toujours une question brise-glace pour commencer, puis en savoir un peu plus sur toi. J'avais envie de te demander, pour toi, le mot « ambition », qu'est-ce que ça fait résonner chez toi? Comment tu le définis? Qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai envie de dire que ce que ça m'appelle, c'est ce que j'entends souvent dans les milieux d'entrepreneuriat, c'est des grands chiffres, c'est des grands objectifs de vie, c'est par exemple atteindre 100 000, atteindre le million, ou bosser que X heures par semaine. Moi, je le mets plutôt en alignement avec ce dont j'ai besoin, ce qui est écologique pour moi à un moment T, tu vois. Et du coup, mon ambition, c'est plus d'aller tendre le maximum vers ça. Et en fait, ce « ça », il est redéfini tout le temps.
Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que c'est plus proche de la notion d'objectif que...
Oui, parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai pas d'ambition au sens, tu vois, être Forbes under 40 under 40 ou ce genre de choses. Mon ambition, c'est de réussir à être la plus heureuse au quotidien dans mon travail, dans les petites choses, dans les petits moments de la vie. Dans... Tu vois, elle est là, mon ambition, c'est d'être au mieux dans chaque jour.
Ouais, merci. J'aime poser cette question parce que je trouve que le terme ambition, du moins quand j'avais commencé mon entreprise en 2016, c'était un terme encore très négatif. Puis l'associer, beaucoup de femmes préféraient dire qu'elles n'étaient pas ambitieuses ou que l'ambition, c'était comme un peu considéré comme un gros mot parce que justement, ça a cette notion extractive, hyper dans la productivité, puis dans l'accumulation de richesses, puis des choses comme ça. Fait que j'aime demander aux gens comment elles le définissent pour qu'on puisse enrichir cette définition parce que je pense que on l'a peut-être réduit à des concepts qui sont très masculins, capitalistes, patriarcaux. Et puis voilà,
Peut-être,
merci.
ouais. Mais effectivement, je me sens un petit peu éloignée de ce terme. C'est pas, j'estime être ambitieuse parce que je m'arrête pas. J'ai des objectifs qui sont ambitieux, mais ils sont effectivement assez éloignés des objectifs masculins, comme tu le dis, capitalistiques.
Intéressant. Écoute, ben aujourd'hui,
Ouais.
on va parler de intelligence artificielle et de design. Je trouve ça intéressant parce que je réfléchis beaucoup au métier créatif versus à l'automatisation, mais aussi, je pense qu'il y a un lien aussi avec le type de rémunération qu'on peut demander pour notre créativité. Tu sais, il y a comme plein de strates de réflexion autour de l'utilisation des machines pour nous aider à créer. Puis j'étais vraiment curieuse de connaître ta perspective, ton utilisation, parce que tu l'as comme prestation hein, de travailler avec l'intelligence artificielle. Fait que peut-être peux-tu nous dire un peu, juste pour commencer, comment toi tu l'utilises, comment t'es, tu sais, c'est quoi ton histoire avec l'intelligence
Ouais.
artificielle, puis comment c'est rentré dans ton fonctionnement?
Ma première, mon premier point de contact avec l'intelligence artificielle, c'est un peu du, parce que je suis touche à tout et que je suis un peu geek. J'ai tendance à tester tout le temps les nouveaux logiciels, les nouvelles choses qui sortent, à être pas mal dans l'expérimentation, dès lors que je me laisse du temps. Il y a aussi ça qui est nécessaire. Et j'ai vraiment mis mon nez dedans très fort quand j'ai vu arriver mon congé maternité et que j'ai senti que j'avais l'intention, j'avais l'ambition de passer sur de la formation en ligne à horizon plus un an. Mais l'arrivée de mon congé maternité m'a un peu accéléré ça et j'ai identifié que lancer une formation pourrait être un levier de sécurité financière. Et donc j'étais pile au bon moment pour pouvoir mettre un grand coup de recherche sur comment Midjourney pouvait aider les indépendants sur le web. Et donc j'ai fait ça et ça a été mon premier outil, mon premier vrai contact sérieux avec les IA génératives. En parallèle, moi j'ai utilisé ChatGPT, mais un peu en dilettante, comme n'importe quel autre indépendant, je pense, j'ai pas creusé et je me suis pas formée intensément. Et aujourd'hui, l'IA générative visuelle, en tout cas, je me sers énormément de mid-journée au quotidien dans mon travail de direction artistique avec les indépendants. Parce que tout simplement, quand on est un indépendant, on a souvent besoin d'illustrer des choses, de se créer un univers et on manque de contenu en fait. Et donc on se retrouve soit dans l'excès, dans un sens à devoir publier des visuels qui sont génériques et qui viennent de banques d'images, donc tout le monde les a, ces visuels d'une photo d'un ordinateur vu de dessus sur un bureau en marbre avec un stylo. Enfin, vous voyez ce genre de visuel très Pinterest, très Instagram. Et l'excès inverse, c'est ben, du coup, comme on n'a pas de visuel et qu'on n'a pas forcément un champ sémantique propre, on va mettre des selfies, des photos de nous qui vont venir asseoir notre personal branding, mais pas une marque plus généralement. Et donc, travailler avec l'IA me permet d'outiller facilement et de manière créative tous mes indépendants avec qui je travaille. Maintenant, c'est quasiment un projet sur deux projets sur trois, on va dire, qui fait le choix de l'IA dans la génération de visuels.
C'est vraiment intéressant, puis j'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, depuis quelques années, ont fait beaucoup ils ont vraiment fait une tangente vers le contenu visuel. Puis je pense juste au fait d'être sur LinkedIn. Puis moi, je suis sur LinkedIn depuis, justement, depuis 2015-2016, de façon assez active. Et j'ai toujours aimé LinkedIn parce que pour moi, c'était un lieu où je pouvais juste publier du texte jusqu'à à peu près un ou deux, peut-être une année ou
Ah
deux.
non, ouais.
Là, soudainement, là, c'est comme, il faut absolument qu'il y ait une photo qui accompagne pour plaire à l'algorithme. Puis j'avoue que ça m'a vraiment refroidi par rapport à la plateforme. Parce que comme tu dis, tu sais, ça demande la recherche, ça demande, tu sais, faire un photoshoot, ça coûte de l'argent. C'est pas nécessairement un budget qu'on veut mettre à chaque année. Mais souvent, je me pose la question comment justement les gens ils font pour prendre le temps de générer autant d'images. Fait que c'est intéressant que tu sois venu avec cette solution.
Ouais, y a vraiment cette. Y a les gens qui font beaucoup de photoshoots parce que leur personal branding est hyper fort et ils ont beaucoup besoin de beaucoup d'eux. Tu vois, pour donner le cas d'une cliente avec qui j'ai terminé l'identité aujourd'hui, voilà, on a clos aujourd'hui la prestation. Dans son identité, on est allé renforcer des choses qu'elle mettait déjà en place, c'est-à-dire qu'elle utilisait beaucoup le vocabulaire du croustillant, de l'élégance, mais en même temps quelque chose de très féminin, très acidulé. Et en fait, elle s'adresse aux agences, aux agences créatives. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé tout un univers vintage, un peu rétro, à la Don Draper dans les agences de publicité Mad Men. Et tous ces visuels-là, en fait, on aurait pu passer des heures à les chercher dans des banques d'images. À la place, on s'est concentré sur le fait qu'on savait ce qu'on voulait comme type de visuel, et donc on les a générés. Ça nous a aussi permis d'aller chercher des visuels qu'on n'aurait pas eu à l'époque, à savoir des hommes face à des machines à écrire, à savoir des femmes noires dans certaines situations, des bureaux qu'on n'aurait pas eu parce que la société n'était pas la même. Donc ça crée aussi des nouvelles choses. Et donc cette cliente-là, elle est outillée en termes de visuel. Elle a tout pour dans ses templates Canva pour pouvoir créer, aménager. Et elle se pose plus la question de qu'est-ce que je mets comme. Est-ce que je dois mettre un selfie? Est-ce que je dois créer une composition avec du texte? Tout est prêt.
Ah, génial. C'est vraiment intéressant. Puis là, tu parlais de Midjourney. Tu t'es inscrite à Midjourney. Je me rappelle quand c'est sorti parce que j'étais dans des serveurs Discord qui
Ouais.
parlaient beaucoup, genre, de tech. On parlait des EFT, on parlait, genre, du métaverse. Puis là, Midjourney est apparu dans une de ces conversations. Puis ça a titillé ma curiosité. J'avoue que je ne l'ai pas utilisé de façon très, très poussée. Mais pour toi, tu es rentrée dans le mode bête, dans le déploiement bêta, dans le fond, du logiciel, j'imagine.
Ouais, tout à fait. Et j'essaie de rester à jour des nouveautés. Je suis sur des serveurs aussi francophones qui font de la recherche tous ensemble, qui testent quand il y a des nouvelles fonctionnalités, qui cherchent un peu les limites, donc un peu de contenu, comment on dit, de communauté, quoi, où on va creuser ensemble pour approfondir, trouver des choses, les failles.
Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que ben je veux dire, tu fais du design graphique, mais qu'est-ce qui a fait que, selon toi, tu as réussi à, je sais pas si on dirait craquer le code, mais à l'utiliser d'une façon qui est beaucoup plus approfondie que simplement envoyer une commande générique à l'IA générative? Tu sais, comme, c'est quoi les aptitudes, tu penses, qui ont été vraiment utile pour toi pour apprendre cette méthode?
Il est clair que la première compétence, c'est de la culture visuelle. Alors, on peut, si on en manque, la travailler grâce à des sites d'inspiration, des banques de prompts, on peut aller copier des choses, voir, tester, mais avoir une culture visuelle, savoir à quoi ça va faire référence quand on voit tel type d'image, savoir comment nommer les choses, ben ça aide énormément. Et la deuxième chose, c'est la capacité à faire des choix. Donc là, pour mes clients, du coup, la capacité à faire des choix en conscience, donc en prenant en compte la sémiologie, toute la signification des couleurs, des styles, de comprendre quels vont être les signifiants aussi en termes de forme, qu'est-ce que va raconter notre image et qu'est-ce qu'on veut faire raconter à nos images. Et ça, c'est clairement des aptitudes de designer qu'on peut Tâter du doigt, qu'on peut apprendre en amateur éclairé, c'est clairement possible, mais qui sont quasiment innés quand on a travaillé des années avec les autres, d'autres outils, finalement. C'est juste un moyen accéléré pour moi de très rapidement donner des outils à mes clients.
D'autres outils, tu parles des outils comme Photoshop ou des choses comme ça, genre,
Ouais.
ouais.
Bah, dans la
Est-ce
même
que,
situation,
ouais.
mes outils avant, c'était des banques d'images, c'était des photomontages, c'était des illustrations que je devais commander à des artistes en fonction des cas. Donc tout ça, je le fais encore. En fait, mais ma réflexion à moi, elle est de direction artistique, elle est au-dessus. Et ensuite, après, je choisis l'outil le plus à même de m'amener là où je veux aller. Et Midjourney est vraiment accélérant pour le coup, ça aide vachement.
Ouais, puis j'entends aussi le vocabulaire. T'sais, je pense que cette partie-là, c'est peut-être la plus facile, entre guillemets, à apprendre, qui est le vocabulaire visuel. Après, c'est la direction artistique, puis la vision, qui est peut-être un peu plus... Ben, c'est plus une expertise qu'on développe au fur et à mesure qu'on fait du travail sur différents cas. T'sais, moi... Par exemple, j'ai étudié l'histoire de l'art, puis j'ai quand même un grand vocabulaire, l'histoire de l'art et la littérature, donc j'ai un vocabulaire quand même assez grand pour tout ce qui est au niveau des types visuels ou des styles. Par contre, le travail avec l'IA me ferait peur, ben me fait peur. Il me semble être un... Quelque chose que je suis pas encore capable de faire parce que j'ai pas développé nécessairement cette vision-là ou cette imagination autour de ce que j'ai envie de créer dans mon brand. Ou de traduire, par exemple, un brand avec des symboles et avec genre un ressenti et des choses comme ça.
Je pense
Toi,
qu'effectivement, il y a un truc
ouais.
à questionner. Souvent, j'ai des clients qui arrivent comme toi, ils ont une marque identifiée visuellement. Et ça m'est arrivé, c'est-à-dire quelqu'un avait son logo, il avait ses couleurs, avait sa marque qui était vraiment positionnée. Par contre, en termes d'outils visuels, elle avait uniquement ses selfies et des compositions que lui a donné son designer, mais rien n'était dit sur quel traitement doivent avoir les visuels. Et donc, en fait, quand elle était dans l'IA, elle n'avait pas d'intention, elle savait pas à quoi lui dire, et donc tout ressemblait à de l'IA. Parce qu'en fait, du coup, si tu sais pas dire, si tu dis c'est pas ce que tu veux, l'IA prend son style à elle. Elle a un peu, chaque IA a des entraînements qui font on va reconnaître un style plus ou moins fort. Et donc, ce qu'on a fait ensemble, c'est juste, tu vois, 2 heures où on a questionné uniquement quel style doivent avoir tes visuels pour qu'ils s'intègrent au mieux dans ta charte et qu'ils viennent l'agrandir et pas la réduire.
Vraiment
Donc, c'est peut-être
intéressante.
ça qui te manque, toi. Du coup, c'est ce petit travail de, quels seraient les meilleurs visuels pour venir compléter ma marque et venir l'amplifier, lui donner plus de force et qu'on reconnaisse encore ma marque quand il n'y a pas le reste, c'est uniquement mes visuels.
Ouais, puis tu sais, je le compare justement à ma façon d'écrire. Tu sais, souvent, on va avoir l'impression qu'il faut illustrer le propos, mais en même temps, l'image va toujours venir ajouter une autre dimension à laquelle on n'avait pas pensé. Fait que c'est comme si on commence à penser en multiples dimensions aussi par rapport à ce qu'on a envie de communiquer. Puis ça, je pense que c'est intéressant à faire, mais je pense que les gens le font peut-être intuitivement, mais le faire de façon intentionnelle comme tu le proposes, c'est un autre degré de réflexion. Donc j'aime vraiment cette approche-là que tu amènes. Est-ce que tu as réfléchi, ben j'imagine que oui, mais est-ce que tu penses que l'IA pose des dangers aux créateurs visuels ou aux créateurs, tu sais, ou aux designers, tu sais, comment toi tu comprends cette grande problématique de je sais même pas, le mot bastardisation me vient en tête, mais c'est peut-être pas le
La
bon mot. Tu sais,
question de l'éthique,
ouais. Ben,
peut-être,
la
la question
question
de
de l'éthique au
l'éthique.
niveau du copywriting, mais aussi au niveau de le développement justement de ces aptitudes très uniques, parce que chaque designer aussi a son style, va développer son style. Puis là, j'imagine quand tu vas dans l'IA, ben, tu rentres un peu plus dans... T'sais, toutes les possibilités sont ouvertes et peut-être perdre un peu de cette personnalité, genre de l'artiste qui se mêlerait avec l'outil, je sais pas, genre.
C'est
Est-ce que toi,
hyper
tu y penses
intéressant. C'est
des
intéressant et
dangers
c'est
ou
une
non?
question qu'on n'a pas posée depuis très longtemps parce qu'en fait, il y a un peu deux courants, y a deux veines en design graphique. Une veine qui dit qu'on est des artistes et une autre qui dit qu'on n'est pas des artistes. Et dans ces deux séparations, avec évidemment un milliard de nuances au milieu, tu vois, moi, je ne m'identifie pas comme artiste, c'est-à-dire que mon style à moi, je l'estime assez neutre. J'ai une capacité à fluide à me dire à utiliser tout un tas de styles variés qui vont venir mettre en valeur le client que j'ai en face de moi. Mais il y a effectivement aussi des designers qui ont des pattes très fortes et qui ont des styles très forts et qui du coup de fait on vient les chercher pour leur style graphique. Il y a vraiment ces deux salles, deux ambiances. Et pour répondre par rapport à la capacité des designers à continuer à être dans à ne pas être dans la standardisation et à pouvoir développer leurs propres expertises et leur propre style technique. Ça, je pense que ça se joue vachement en école et dans l'expérimentation et l'apprentissage. Je trouve que c'est une époque incroyable aujourd'hui, là, en ce moment, d'être enseignant. Je suis vraiment navrée de pas avoir de plus avoir le temps et l'espace pour le faire. Quand je vois les rapports et les comptes rendus publiés par les enseignants sur l'usage de l'IA dans les écoles, sur comme outil d'expression, en fait, comme outil de recherche, comme outil artistique. Je trouve ça incroyablement intéressant. Et force est de constater que dans pas mal de travaux, c'est vraiment c'est un beau potentiel et on voit pas de standardisation. Au contraire, on voit des étudiants qui questionnent, qui se posent des questions d'éthique, de sens et qui sont critiques, hein, qui parfois aussi font des choix de se dire, ben non, l'IA, ça sera pas pour moi et je vais attendre qu'il y ait une moralisation de la chose. Et après, sur le plan éthique, au niveau sociétal, je pense que ça nous dépasse un peu et que c'est le genre de choses, moi c'est mon avis très personnel, hein, où le boycott n'a pas trop de sens. Par contre, la légifération, on dit comme ça, en tout cas, il est intéressant de légiférer
Législation, ouais.
collectivement. Donc, nous, en Europe, on a le EU Act. IA Act qui est en train de se mettre en place dans les pays maintenant, de manière à protéger les citoyens et informer. Et pour moi, ça se joue vraiment là après, parce que c'est déjà massivement déployé, donc.
Oui, parce que dans le fond, je pense que ce qui est intéressant avec ta distinction entre ceux qui se considèrent artistes versus ceux qui se considèrent plus des conduits d'expression pour des marques. Peut-être c'est pas le meilleur terme, mais bon, c'est ce qui me vient. Il y a aussi l'enjeu que les IA sont entraînées avec des vraies œuvres de vrais ben, de vrais créateurs, dans le sens que il y a une communication entre, par exemple, le designer qui va récupérer à travers l'IA du travail d'autres illustrateurs ou de
Tout à
peintres ou
fait.
de personnes qui n'ont pas nécessairement été rémunérées. Puis avant l'IA, ben, il y avait plus de collaboration peut-être entre ces domaines. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses ou si c'était ton cas à toi de vraiment genre, t'sais, collaborer avec d'autres champs
Ouais,
artistiques.
j'ai toujours en tant que designer collaboré avec d'autres prestataires, photographes, illustrateurs, dès lors que ça sort de mon champ technique. Et je continue à le faire quand, en fait, on peut pas. L'IA, pour l'instant, en tout cas, fait pas, n'a pas la qualité, clairement. Il y a des choses hyper intéressantes, mais en fait, dès lors que l'on veut vraiment de la qualité et qu'on veut de la précision, on n'arrive plus avec l'IA pour le moment. Donc, je dis bien pour le moment, hein, parce que ça va tellement vite. J'ai perdu le sens de ma phrase, mais bon, ça va revenir. Est-ce que tu peux reformuler reposer ta
En
question? Ça
fait, c'est
reviendra
ça,
peut-être.
c'est parce qu'on parlait des dangers aux créateurs, tu sais, les dangers de l'IA aux créateurs. Puis bon, du côté des designers, on dirait que ta position, c'est plus, bon, le danger est pas si présent, ça permet genre un nouveau champ de créativité, beaucoup plus d'opportunités, des choses comme ça. Mais en tant que personne créative qui travaille avec d'autres créateurs qui, eux, sont peut-être pas biaisés, mais ils sont lésés par l'IA.
Mmh,
Comment dans ta propre, par exemple, éthique de création, tu détermines, bon, ben là, je préfère justement aller vers un photographe, puis travailler avec une illustratrice, puis travailler avec d'autres types d'artistes qui, ultimement, l'IA se nourrit de leur travail aussi
Ouais,
pour
tout à
pouvoir
fait.
créer.
J'ai l'impression, après, on me détrompera peut-être, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la question, elle se pose pas vraiment dans le sens où les gens qui utilisent l'IA à 8 dollars par mois pour produire leurs visuels sont pas des gens qui avant achetaient de la commande d'œuvres à des créateurs plasticiens, illustrateurs, photographes. En ce qui concerne moi, mes clients, par exemple, ce ne sont pas des gens qui étaient en capacité de faire ça. Ils étaient en capacité, comme tu disais, peut-être d'acheter un photoshoot par an. Et ça n'a pas du tout dévalorisé la valeur d'un photoshoot, parce que clairement, faire des visuels IA, on a vu la limite. C'est nous, mais ce n'est pas vraiment nous. Donc ça reste quand même la patte, l'œil d'un photographe reste quand même importante. Du coup, je pense que la question du remplacement des créateurs par des IA, elle se fait plutôt dans des secteurs capitalistiques forts, comme peut-être l'édition qui va avoir tendance à remplacer les illustrateurs. Et je sais pas si c'est bien ou mal, tu vois, il est clair que il y a des endroits où la valeur ajoutée, la valeur perçue en tout cas d'un vrai créateur par rapport à une IA n'était pas suffisante pour qu'aujourd'hui on se dise qu'on va garder les illustrateurs par exemple sur ces travaux-là. J'ai pas,
Et puis
honnêtement, j'ai pas.
je pense qu'on garde la vision aussi. Par exemple, je pense à la retouche photo, tu sais, que ça a toujours été un travail très, très technique et de précision, puis on le faisait avec des outils du web comme Photoshop, justement, ou d'autres types, Lightroom ou peu importe, mais l'IA va probablement permettre de fluidifier ce travail sans nécessairement enlever la vision du photographe sur le produit final. Puis je pense qu'il y a ça aussi là, que j'entends aussi dans ton travail, c'est que la vision reste pas quelque chose qu'on peut déléguer à l'IA. C'est quelque chose qu'on doit établir d'avance et qu'on doit réfléchir ensemble d'un point de vue créatif.
Ouais, je pense vraiment que l'IA peut être une sorte de binôme stagiaire, assistant, ping-pong de création, mais que l'humain a quand même son mot à dire sur la question de faire des choix, en fait, d'être éclairé dans ses choix. En termes de. Par exemple, sur mon métier du design graphique, je vois bien demain l'humain qui est en place de faire des choix. Donc, identifier les couleurs, la manière dont on pose les textes, dont on agence les choses. Et ensuite, l'IA ensuite vient remplacer les métiers d'exécution. Par exemple, moi, je ne vois pas la valeur ajoutée d'un humain à refaire 55 fois le même visuel en fonction des tailles d'écran, en fonction des tailles des panneaux publicitaires dans la rue, en fonction des prix. Ça, c'est par exemple pour les magasins, enfin, tous ces trucs-là, ça a tout intérêt à être transformé et utilisé, mis en œuvre par l'IA. Donc je pense qu'il y a des, tu vois, tant qu'on reste sur la partie créative, faire des choix dans la main des humains et qu'ensuite derrière on donne la productivité et l'exécution aux IA, moi ça me va.
Ouais, je suis super d'accord avec toi. J'ai une amie collègue entrepreneur qui, eux autres, ils génèrent des photos de tarmac. Donc, c'est des gros avions, puis un photoshoot avec un avion sur un tarmac, ça peut coûter genre des dizaines de milliers de dollars. Mais là, grâce à l'IA, ben, ils peuvent créer justement du contenu sans avoir à déplacer
Oui.
physiquement des objets aussi gros,
Et puis,
t'sais.
toutes les agences, ici, là où j'habite, on a une agence qui est connue pour faire les films Décathlon. Pour un film Décathlon, j'ose même pas dire le nombre de lieux. Parce que pour avoir le coucher de soleil sur une montagne, c'est du coup en Afrique du Sud. Pour avoir la plage où ils font du beach volley, du coup, c'est au Brésil. Tout ça pour une seule publicité de 30 secondes, ben, tout ça peut être vachement réduit aussi en termes de coûts écologiques et économiques grâce à l'IA.
Intéressant. À quoi tu fais le plus attention justement quand tu travailles avec l'IA? Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu es comme, OK, ça, il faut vraiment que je sois précise avec ce type de travail.
Moi, la chose à laquelle je fais la plus attention maintenant, quasiment que ça, c'est les biais. Je fais attention, c'est-à-dire que à un moment donné, un peu comme quand on fait un premier jet d'écriture, qu'on y va un peu on tape, on tape, on tape, et à la fin, on s'arrête et on dit, maintenant, je vais ne regarder que l'orthographe. Parce que si on ne fait pas ça en conscience, on saute les fautes d'orthographe, notre cerveau les zappe. De la même manière, je produis, et à un moment donné, je m'arrête et je me dis, OK. Maintenant, est-ce qu'il y a des biais que j'ai laissés passer parce que dans la manière dont mes prompts ont été faits, du coup, lui ne m'a mis que des hommes. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des choses à corriger? Et en fonction, du coup, je reprends mes prompts et je régénère des images qui vont venir compenser les biais que j'avais pu laisser passer. C'est
Ouais, parce
vraiment
qu'on
la
assume
chose.
qu'on a une vision. Non, mais c'est intéressant, puis c'est intéressant aussi dans un point de vue féministe, puis de changement social aussi. Comme tu dis, la représentation est importante. Puis ce qui est cool avec l'IA, c'est qu'on peut créer différentes types de représentations qu'on ne trouverait pas nécessairement dans des banques d'images
Exactement.
qui sont pas conscientes à ces biais-là.
Il y a eu d'ailleurs
Oui.
un peu un tollé parce que l'IA générative de Google est sortie et les gens se sont amusés à lui faire faire des choses que d'autres IA n'arrivaient pas à faire, par exemple. Et comme elle était vachement, comment on dit, entraînée. Pour être hyper inclusive, du coup, elle commençait à faire des hallucinations, des erreurs qui étaient anachroniques ou pas du tout réalistes historiquement. Par exemple, elle faisait des papes. On lui demandait de faire fais-moi des papes. Et il y avait quatre visuels. Sur les quatre visuels, il y en avait un noir et un chinois. Et ça n'avait aucun sens historiquement. Mais comme l'IA avait été fortement entraînée pour éviter d'être uniquement blanche et masculine, ben du coup, on a des choses comme ça qui étaient un peu pas véridiques,
Anachronique,
en tout cas, ouais,
ouais.
anachroniques.
Ouh, ouais. Intéressant. Donc, fact-check, il y a
Bref.
toujours c'est ça, hein, il faut déterminer qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut, tu sais, parce que je pense, mettons, à Bridgerton, où il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, oh, mais c'est pas réaliste de penser que, tu sais, il y avait des personnes noires qui, da-da-da. Puis d'un autre côté, c'est comme, non, mais on est dans un univers qui est modifié, qui est transformé, puis je pense qu'il y a ça aussi. L'idée que l'image ou la photo est une représentation de la réalité, là, on est en train de brouiller ces pistes-là aussi avec l'IA générative.
Complètement.
Ouais. Ce qui pose ses propres problèmes, mais aussi qui offre des opportunités créatives au niveau psychologique puis au niveau social. Qu'est-ce que tu vois qui s'en vient justement en termes d'opportunités avec l'IA pour les designers, pour les créateurs? Ou quelque chose que tu aimerais voir arriver?
Ce qui est assez excitant là qui arrive, c'est toute la partie conception de wireframe et sites internet. C'est une autre partie de mon travail, mais jusqu'ici, ça avait été encore un peu IA protégé parce que c'est très technique, c'est très compliqué et en même temps, c'est très très chronophage. Et ça demande de traiter pas mal de données quand on fait de la recherche utilisateur. Ça demande de traiter beaucoup de données pour comprendre les comportements finement des gens. Et ça, je pense que c'est assez excitant. Alors, c'est pas vraiment dans l'univers visuel-visuel, mais c'est dans la recherche derrière. Et j'ai un peu hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines, presque mois, je pense, dans les prochains mois. C'est en train d'arriver. Et là, arrive en ce moment la vidéo pour tous. Du coup, j'ai pas encore vu beaucoup de gens s'en servir pour faire de la création de contenu. Et donc, j'ai hâte de voir ce que vont faire les gens dès lors qu'on leur met un nouvel outil dans les mains et que ça, enfin, que ça les rend plus créatifs. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire.
C'est quoi ton outil préféré? C'est Midjourney ou est-ce que tu les as tous essayés pour les
Non,
comparer?
je les ai pas tous essayés. J'ai fait ma veille au démarrage parce que je cherchais l'outil qui était le plus adapté à ma cible. À l'époque, du coup, en juin de l'année dernière, l'outil le plus adapté, et je pense encore aujourd'hui, c'était Midjourney, parce qu'il avait une capacité à entendre ce que tu lui disais. tous les autres à ce moment-là, quand tu leur demandais un style, ils faisaient semblant de t'écouter, quoi. Donc, Midjourney permettait cette précision dans l'image résultat, et c'est encore un des meilleurs dans ce truc-là. Par contre, il y en a qui sont bien meilleurs sur l'interfaçage et comment on communique avec eux. Et donc non, je ne les ai pas tous testés. Mon préféré, ça reste Midjourney parce que j'y suis bien et que j'aime ça. J'aime le fait qu'on puisse vraiment jouer avec plein de paramètres et donc aller vraiment se surprendre et questionner plein de petits bouts de l'image, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec d'autres.
Est-ce que tu as l'impression que ça prend une formation pour être capable de bien utiliser l'IA pour le design ou les gens qui ont envie de commencer à jouer avec ça, tu leur suggérerais de commencer?
Si je prêchais pour ma paroisse, je dirais qu'il faut une formation. La vérité, c'est que non, je pense qu'il n'y a pas besoin. Il y avait besoin avant, notamment pour Midjourney, parce qu'il était très technique en termes de vocabulaire, de paramétrage et tout ça. Aujourd'hui, ils sont en train de sortir en plus des versions d'interfaçage qui sont enfin, l'interface entre l'homme et la machine, l'IA, qui sont hyper agréables à utiliser et très fluides. Donc, je pense pas aujourd'hui pour démarrer qu'on ait besoin de ça. Finalement, le cœur, on en a parlé tout à l'heure, hein, le cœur de ce qui fait la réussite de l'utilisation des IA, c'est sa capacité à faire des choix éclairés dans notre direction artistique. Donc finalement, si je devais vous recommander une formation, ce serait plutôt genre ben, comprendre les compositions d'images, comprendre les styles d'images, comprendre les bases du design visuel.
Ouais, il faudrait quasiment faire un cours de photo, un cours de colorimétrie, des
Ouais,
choses comme ça
ça.
pour être capable de
Est-ce que
vraiment
c'est
aller à un
pas juste
prochain
avoir
niveau.
beaucoup de curiosité, un petit peu d'histoire de l'art, un petit peu de tout? Et bon, après, j'avoue, Midjourney, il y a encore plein de trucs qu'on peut apprendre en formation. C'est assez pointu comme outil. Mais pour s'amuser, normalement, tout le monde peut y arriver.
Toi, quand tu vois des mauvaises images IA,
Oh.
dans le fond, ça serait quoi tes caractéristiques d'une bonne image versus une mauvaise image? On a parlé des biais, donc quelque chose d'inclusif, quelque chose de représentatif aussi.
Pour
Qu'est-ce
moi, une
que
mauvaise
qu'est-ce
image, c'est une image où on se dit, ah, c'est de l'IA. Et on n'est pas surpris, on n'est pas notre cerveau, il n'est pas étonné en bien. Il n'y a pas d'excitation. Juste, ça sent l'IA à plein nez, c'est mal exécuté, le style est un peu dans cette perfection un peu lissée. Avec un style très standard de l'IA. Et pour moi, une bonne image IA, c'est une image où on se dit, attends, mais c'est de l'IA là? Ah ouais, c'est intéressant. Et parce qu'en fait, l'image vient créer quelque chose de nouveau, vient un peu questionner, vient mélanger des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qu'elle est faite avec intention, avec précision, et donc du coup, elle vient vraiment renforcer l'image de marque. Sans crier à plein nez que c'est de l'IA. Un peu comme un bon
Ah, ouais,
maquillage, tu vois.
intéressant.
Un bon maquillage qui dit genre, qui convainc le reste de ton corps, qui crie pas je suis maquillée, qui est en adéquation avec le reste et qui est subtil, quoi.
Ça me donne plein d'idées. Puis aussi, tu sais, le fait, moi, je travaille beaucoup en positionnement de marque, donc c'est vraiment mon expertise. Mais je pense qu'il y a comme un travail qu'on fait en amont aussi pour aller chercher les bons mots, la bonne ambiance, la bonne
Oui.
réflexion aussi, qui après ça va servir quand on rentre dans la déclinaison justement de cette image-là. Puis je suis vraiment vraiment curieuse de voir ce que tu fais avec tes clients. J'ai regardé ton site, mais il y a quelques études de cas, mais j'ai pas vu, elles n'ont pas été
Non.
publiées encore.
C'est horrible. Juste avant qu'on s'appelle, j'étais en train de commencer à travailler avec ChatGPT en binôme. C'est-à-dire que je lui dictais ce que j'avais fait avec les clients et pour qu'il m'aide à structurer ces études de cas qu'il faut absolument que je mette en place sur mon site internet. Je suis vraiment une cordonnière très mal chaussée. Mais et tu disais que donc tu travailles sur l'image de marque et tu parles des mots, et quand on travaille sur l'image de marque, il y a aussi un moment donné où des fois on va aller questionner l'univers sémantique, le vocabulaire, le lexique, est-ce que ça fait référence plutôt à des mots qui vont faire référence à l'eau, à la création, à la terre, enfin. Et je pense à une cliente qui avait tout un univers, elle avait tenté de faire un univers sémantique autour du surf, et en fait elle se rendait compte que ça collait pas avec avec sa cible. Et ou en tout cas qu'avec une toute petite partie de sa cible. Et finalement, elle a, de fil en aiguille, commencé un univers sémantique autour du jeu vidéo par rapport au fait qu'être entrepreneur, il y a aussi il y a des boss finaux, il y a des méchants, l'URSSAF en France, il y a des niveaux. Enfin voilà. Et donc, en questionnant du coup visuellement ensuite derrière, on a décliné tout un champ. Lexical visuel autour du jeu vidéo en demandant à Midjourney de lui créer des visuels en référence à des jeux comme les jeux de Tycoon, Zoo Tycoon, Roller Coaster Tycoon ou des jeux de
Ah ouais.
fight. Et donc maintenant, en fait, elle a cet univers sémantique qui vient en ping-pong, qui vient faire des renvois à son univers lexical quand elle écrit son poste. Sur LinkedIn, par exemple, ou quand elle écrit ses pages de vente, ben on va retrouver des jeux de mots, des mots-clés liés à l'univers du gaming qui parle bien aux entrepreneurs, et en même temps l'univers visuel qui va venir renforcer ça. Et c'est assez intéressant.
C'est fascinant, ça me donne vraiment genre envie d'en savoir plus sur sur ta méthodologie, puis vraiment de l'expérimenter.
C'est dommage
Parce
que ce soit un
que
podcast et que ce n'y ait pas d'image.
oui, c'est ça, parce que ça serait vraiment vraiment cool de le voir. Est-ce que justement, tu partages tes processus sur les réseaux, genre comment on fait pour en savoir un peu plus sur ton travail, puis c'est ça, si on veut travailler avec toi, où on te trouve, c'est quoi tes plateformes?
Alors j'essaie de publier un peu les coulisses professionnelles, on va dire, sur LinkedIn, donc de montrer ce que je fais avec les clients, comment je travaille, comment notamment aussi mes coulisses un peu de building public, comment j'explore d'autres outils, comment je construis mon marketing, ma propre aussi image de marque, puisque c'est aussi comme ça que j'ai commencé, en faisant ma propre image de marque avec des Marie-Antoinette. Donc tout ça va être sur LinkedIn. Sur Instagram, vous allez pouvoir trouver plutôt les coulisses parentalité et entrepreneuriat dans la vraie vie. Sur mon site internet, vous avez les offres, donc la manière dont on peut travailler avec moi. Par exemple, avec l'IA, j'ai une formule atelier de 2 heures pendant lesquelles on travaille uniquement ça. Quel va être ton univers visuel en fonction de là où tu es avec ta marque, toi? On regarde et donc on travaille ensemble cet univers visuel. Et tu repars avec tes visuels et tes prompts. Ça, c'est un
Wow!
format 2 heures
Génial!
qui est
Vraiment très
expliqué
cool.
avec des petites études de cas, des toutes petites.
Des petites études de cas, on
Ouais.
a vraiment hâte. OK, merci beaucoup. Maintenant, on va mettre les liens naturellement dans les notes de l'épisode. C'est une expertise fascinante. Puis moi, je me considère une artiste, même si je ne suis pas je suis une artiste entrepreneur dans un certain sens. Fait que je trouve ça intéressant de voir comment les gens utilisent ces différents outils. Personnellement, en tant que rédactrice, j'ai pas l'intention d'utiliser l'IA d'aucune façon que ce soit pour le moment, mais j'aime avoir des perspectives aussi de personnes qui sont capables de l'utiliser d'une façon qui est très créative et pas juste productive, tu sais, pas juste dans on va en créer plus parce qu'on a besoin genre de créer du volume, mais on va vraiment rester aussi dans la qualité puis dans le jeu puis dans l'intentionnalité. Fait que c'est ce que je
Exactement.
ressens dans ton travail là, puis ça c'est vraiment fascinant. Donc merci de ta présence, merci de nous avoir partagé
Merci à
ton
toi.
expertise, puis à bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup.
Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.